Ah oui, séance du 14 janvier 2025, réflexion sur la liberté.
Non, oui.
Réflexion sur la liberté. Yann Mouton nous parle du discours de la servitude volontaire d'Étienne Laboétie.
Voilà. Eh bien, bonne année à toutes et à tous, et merci à Philopop et merci à Didier parce que pour me permettre cette fois de cette rencontre annuelle, toujours un plaisir de venir vous retrouver. Donc, Étienne de Laboétie, discours de la servitude volontaire. Alors. Discours de la servitude volontaire, voilà, comme évidemment le titre déjà inquiète, intrigue, et paradoxal, quoi. D'une certaine façon, le terme et la notion de servitude pourraient être les outils incontournables permettant de construire une définition par contraste, par opposition, une définition de la liberté, par la négative. Voilà. La servitude signifie donc pour l'essentiel la plus radicale des dépendances et par extension les contraintes que cette dépendance extrême entraîne pour ceux qui en sont les victimes. Comme on le sait, le terme désigne étymologiquement la condition de l'esclave. Donc, être en situation de servitude, c'est être propriété d'un autre, contraint à une soumission sans limite, victime de domination, de privation, voire de persécution. C'est donc bien l'antonyme strict de la liberté. Autant dire que la servitude est le produit d'une relation. Elle suppose un maître. Elle divise une société, elle divise une configuration sociale en deux parts, celle des maîtres et celle des esclaves, celle des dominants et celle des dominés. Les seconds sont souvent les plus nombreux. Ils sont la multitude de ceux que la Boétie désigne comme les pauvres gens et misérables. La servitude désigne une relation de profonde et cruelle inégalité. Et en réfléchissant à la servitude, on aborde donc bien celle de la liberté, mais à partir de ce qu'on pourrait appeler sa dimension historique et politique. La question que soulève la notion et le terme de servitude est celle, finalement, de savoir si toute forme de société entraîne nécessairement la division entre maître et esclave, ou plus généralement entre dominant et dominé. Autrement dit, est-ce que l'histoire est nécessairement celle de la servitude ? Ou encore, est-ce que tout ordre social entraîne nécessairement la perte de la liberté du plus grand nombre, de la multitude en fait, au profit de ceux qui les dominent ? Et on peut aussi poser cette question en d'autres termes. Est-ce qu'on peut concevoir et mettre en œuvre une société d'êtres libres, donc c'est ce dont il sera question dans l'esprit des lois, est-ce qu'on peut concevoir et mettre en œuvre une société d'êtres libres, ou est-ce qu'il peut y avoir une histoire de la liberté? C'est en un sens la question que pose et que traite le fameux texte d'Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Alors, quelques mots pour commencer sur la Boétie et les conditions de rédaction de son texte qui font vraiment partie du contenu, du sens du texte. Étienne de la Boétie est né en 1530 et est mort en 1563. Il est originaire du Périgord et issu d'un milieu de notables cultivés humanistes. Son père est assistant auprès du sénéchal du Périgord. Sénéchal, c'est une sorte de procureur général. Orphelin de père très jeune, il est élevé par un oncle prêtre. Et comme Montaigne, il fait ses études au collège de Guyenne, tout récemment ouvert à Bordeaux. Puis à l'université d'Orléans, où il obtient une licence de droit civil en 1553, donc à 25 ans. À 23 ans. Il devient conseiller au Parlement de Bordeaux, c'est là qu'il rencontrera Montaigne, et il meurt en 1563, probablement de tuberculose. Alors, la Boétie rédige le discours de la servitude volontaire avant son arrivée au Parlement de Bordeaux, probablement en 1548. Il a donc 18 ans. Le texte qu'on va lire est le texte d'un jeune homme de 18 ans. Le manuscrit original en est sans doute irrémédiablement perdu. Deux copies en ont été effectuées par des proches de Montaigne qui a pris connaissance du texte très tôt. Et comme on le sait, Montaigne consacre un chapitre des essais à sa rencontre et à sa relation avec Étienne de la Boétie, qu'il présente comme un modèle d'humanité. Certains commentateurs soutiennent que Montaigne se serait même engagé dans l'écriture des essais pour y inclure ce chapitre sur son amitié avec la Boétie. Voilà, très rapidement sur l'auteur, sur Étienne de la Boétie. Les circonstances historiques et politiques de la rédaction du discours sont essentielles, comme je le disais, pour comprendre, mesurer la portée philosophique et politique du texte. Alors, deux mots aussi là-dessus, le moment historique et les conditions de rédaction du discours. Couronné en juillet 1547, Henri II succède à son père François Ier sur le trône de France, 1547. Le court règne d'Henri II, puisque vous savez, il va mourir très vite dans un tournoi. Bon voilà, ça, il jouait à des drôles de jeux et du coup. Donc son court règne se caractérise par un exercice du pouvoir particulièrement répressif et violent, en lien avec deux éléments qui ont l'un et l'autre à voir avec la rédaction du discours et les problèmes qui se poseront pour ce qui concerne la publication du discours, la réception, la publication du discours. D'une part, Henri II, dont certains très puissants conseillers sont proches des Guises, très proches des Guises, Henri II durcit sévèrement la répression du protestantisme. Son règne débouchera sur les guerres de religion. Et en second lieu, cette politique très, très répressive, cette politique religieuse très répressive, s'accompagne logiquement d'un développement et d'un renforcement très significatif du pouvoir central sur les provinces du royaume, et souvent aux dépens du droit coutumier. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne la politique fiscale, par exemple. Et alors, en 1548, nous y sommes, c'est l'année donc de rédaction du discours, en 1548, un an après son couronnement, le couronnement d'Henri II, le prélèvement de la gabelle, décidé par François Ier, entraîne un véritable soulèvement paysan dans toute la province. Et la province de Guyenne, c'est immense, enfin, c'est une des plus grandes provinces du royaume, entraîne un véritable soulèvement paysan qui va être férocement réprimé. par les troupes de son successeur sur les trônes. Alors, férocement réprimés, c'est des villages qui sont passés au fil de l'épée, brûlés, les pendaisons, jusqu'à la fermeture pendant un moment du Parlement de Bordeaux. C'est à la suite de cet épisode, probablement dès 1549, vous voyez, dès l'année suivante, que la Boétie rédige le discours de la servitude volontaire. Donc, entre le soulèvement paysan et son arrivée au Parlement de Bordeaux. Voilà. C'est ce qui est impressionnant dans le geste de ce jeune homme d'à peine 20 ans, c'est qu'il dénonce ce qu'on pourrait appeler la violence de l'État moderne, d'une certaine manière, dès les tout premiers moments de son instauration. Immédiatement, la Boétie nous met en alerte, en fait, immédiatement. Et c'est cette audace qui explique que le texte du discours ait connu un destin tout à fait périlleux. On a failli le perdre, en fait, le discours. Si Montaigne, on l'a vu, le salue très vite et en assure immédiatement deux copies, celles-ci vont rester longtemps méconnues, quasi clandestines, sans doute protégées par les milieux protestants, jusqu'à leur redécouverte au XIXe siècle, et leur traduction en français, en français contemporain, par un militant républicain radical des années 1830, voilà, Charles Test. Et tout porte à croire que, par l'intermédiaire des milieux genevois, Rousseau a eu connaissance de ce texte, au point de s'en inspirer. Le texte a bien sûr fait l'objet de nombreux commentaires, je signale ça aussi, bien sûr, dont celui d'un penseur contemporain de la politique, particulièrement passionné par la Boétie et passionnant, c'est Claude Lefort, longtemps professeur de sociologie à Caen, à l'université de Caen, et qui est décédé en 2010. Voilà. Alors le discours, Didier en avait transmis une version, un texte, dans la traduction évidemment de Charles Test, donc dans la traduction en français contemporain. Le discours est un texte court, qu'on pourrait considérer comme une sorte de manifeste, en fait, qui conteste non seulement le règne d'Henri II, qui vient de commencer et qui commence très, très violemment, mais qui conteste aussi plus généralement le régime monarchique, voire la forme de pouvoir central que le terme d'État désigne dans la pensée politique moderne. Dès les premières lignes du texte, la Boétie écrit d'ailleurs « Je n'aborderai pas ici cette question tant de fois agitée, ouvrez les guillemets, si la République est ou non préférable à la monarchie. Point. Si j'avais à la débattre, cette question, avant même de rechercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner, la chose publique, je voudrais savoir si l'on doit même lui en accorder un. Attendu qu'il est bien difficile de croire qu'il y ait vraiment rien de public dans cette espèce de gouvernement où tout, en italique, est un seul, en italique aussi. Est à un seul, pardon, en italique aussi. L'écriture du discours est très étonnamment, tout au long du discours, étonnamment libre, passionné, engagé, et sa construction très rigoureuse est ponctuée de multiples exemples et références que l'humaniste cultivé qu'est la Boétie emprunte à l'histoire antique, grecque et latine. Donc on a à la fois un livre de un manifeste politique, un livre de théorie politique, de philosophie politique et un livre d'histoire, quoi. Pour dégager les propositions que la Boétie soutient dans son discours, le plus simple va être de suivre la progression de sa pensée dans le cours du texte. On pourra ainsi saisir l'incroyable modernité de ses propositions à mesure que leur jeune auteur les enchaîne. la lecture de son texte donne parfois, vous avez peut-être pu le voir, l'impression d'une sorte de proximité singulière avec nous, incroyablement, proximité singulière alors que nous en sommes séparés par bientôt 5 siècles et que ces 5 siècles sont scandés par des événements, des œuvres d'une hétérogénéité maximale, en fait, avec l'époque de la rédaction et le propos que la Boétie y développe. C'est très étonnant. Juste une petite parenthèse, à partir de l'événement que constitue la rédaction du discours, à la mi-temps du XVIe siècle, j'ai parfois proposé aux élèves et aux étudiants de tenter l'exercice qui consiste à repérer au milieu de chaque siècle une œuvre exemplaire pour ce qui concerne la pensée des questions relatives à la politique. Et alors, ça fonctionne étrangement. Et alors, ça me plonge dans des méditations. Voilà, une œuvre exemplaire par texte. Au XVIIe, donc le texte suivant, bien sûr, on cite le Léviathan de Hobbes, publié en 1650. Sans surprise, le XVIIIe double la mise, puisque on distingue deux œuvres majeures, situées elles aussi à la mi-temps du XVIIIe, dans l'Esprit des lois, publié en 1749, Montesquieu s'efforce de concevoir un exercice du pouvoir monarchique qui échappe au désastre que la Boétie dénonce, en quelque sorte par anticipation. Et on sait que ce texte, l'Esprit des lois, sera une référence majeure pour la séquence, on pourrait dire, constitutionnaliste de la Révolution française. Et dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1750, là aussi on est à la mi-temps du siècle, Rousseau engage une critique des formes historiques de pouvoir qui le conduira, cette critique, pour l'essentiel, à une théorie de la citoyenneté. Quelles deux formules ? Ce qui n'est pas peuple est peu de choses, écrit Rousseau. Et puis, les fameuses formules dans l'Émile, livre 3, livre 4, nous approchons, dit-il, 1750, de l'état de crise et du siècle des révolutions, dit-il. 1760, là, puisque c'est dans l'Émile. Un siècle plus tard, 1848, c'est la publication du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Et Engels, on ne va pas les présenter, on est d'accord. Et j'ai souvent demandé aux étudiants de trouver un titre pour le 20e, pour lequel, en tout cas, quant à moi, j'ai tendance à proposer « Peau noire, masque blanc » de Frantz Fanon, publié en 1952, qui sera suivi, comme vous savez, du célèbre « Les damnés de la Terre », mais en 61. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que est-ce que le discours de la Boétie inaugure une sorte de temporalité de la pensée de la politique, une scansion? Vous voyez, ce serait intéressant de réfléchir ce point, parce que avant le XVIe, donc avant la modernité, il est possible que la temporalité ne soit pas tant structurée, scandée par l'événementialité historique et politique en termes de pouvoir et ce que les penseurs en disent, mais peut-être qu'avant, on avait une scansion qui serait peut-être plus théologique. Voilà. Donc ce sont des questions que je vous livre, que je vous soumets. Le discours de la Boétie commence par une sorte de stupéfaction, voilà, voire de révolte même. Dans une importante première séquence du texte, il s'insurge contre une sorte de scandale. Ça commence comme ça. Non seulement scandale politique, mais aussi moral, voire logique. Ce scandale consiste dans le fait qu'une multitude de personnes puisse être durablement et violemment dominée par un seul individu que la Boétie désigne comme le tyran, au sens de celui qui exerce sur les autres un pouvoir sans aucune limite ni aucun contrôle. Alors, la Boétie, bien sûr, n'ignore pas que dans l'Antiquité, le terme n'est pas toujours ni nécessairement pris en un sens si péjoratif. Il désigne parfois le fait que les membres d'une cité pouvaient confier le pouvoir à une seule personne s'ils considéraient que leur collectivité territoriale et politique était gravement menacée. C'est une sorte d'article 16, quoi. Vous voyez quelque chose comme ça. Mais dans le discours, la Boétie mobilise clairement le texte de Tyran le sens qu'il avait déjà à l'époque, et qui était déjà courant à l'époque, d'un pouvoir usurpé, exorbitant, arbitraire, cruel. Ce sens négatif existe d'ailleurs dès l'Antiquité, dès la période grecque classique. Comme vous savez sans doute, les oligarques que Sparte installe au pouvoir à Athènes, après sa défaite dans la guerre du Péloponnèse, qui sont unanimement perçus et dénoncés comme des affreux, sont systématiquement désignés à l'époque comme les 30 tyrans, quand même. Voilà. Alors la Boétie consacre un long moment à exposer ce scandale. Scandale sous tous ses aspects. Il le désigne comme une chose vraiment surprenante, dit-il, et il ajoute, entre parenthèses, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner. Voilà. Je signale d'ailleurs, je n'ai pas dit, il y a une excellente édition aux éditions Payot, parce que vous avez le texte du 16e, le texte du 19e, et des textes jusqu'à aujourd'hui, y compris un texte de Claude Lefort dont je parlais tout à l'heure. Bon, je pense à ça parce que j'ai mes références avec les pages dans cette édition. Donc voilà, une chose vraiment surprenante et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner. Et il précise le scandale. Voilà, il va durcir la situation, montrer le paradoxe, l'exhiber si vous voulez, en soulignant à plusieurs reprises l'abîme quantitatif et qualitatif qui sépare radicalement ce qu'il appelle les millions de millions de sujets souvent pauvres et faibles d'un côté, ce qui sépare donc ces millions de pauvres et faibles de l'unique personnage du tyran qui détient lui seul tous les pouvoirs et toutes les richesses dont il a spolié ceux qu'il domine et qu'il terrorise et persécute plus qu'il ne les gouverne, en fait. Voilà. Le titre complet du discours énonce explicitement cette sorte de monstruosité. Le titre, vous savez, est « Discours de la servitude volontaire » ou « Le contre », mais le contre s'écrit C-O-N-T-R apostrophe, « Le contre » ou le contre 1. Et le texte précise très rigoureusement et très gravement que ce scandale peut être observé partout et tous les jours. Oui, donc la situation, est, à mesure qu'on avance dans l'analyse, est de plus en plus invraisemblable, de plus en plus incompréhensible. Partout et tous les jours, c'est au point qu'on pourrait considérer cette situation comme une sorte de noyau, de ressort, ou de concentré du phénomène même du pouvoir, et en ce sens peut-être comme le problème majeur que soulève l'ensemble des expériences que désigne de manière très générale le terme de gouvernement. Là, on a l'impression qu'en effet, il soulève une sorte de monstruosité, mais qui ouvre à des questions très, très importantes. La Boétie ajoute que cet état de servitude est à ce point inconcevable, qu'aucun terme, dit-il, ne semble en mesure de le décrire, ni même de le désigner de façon convenable, de façon exacte. Il dit « toute expression manque ». Voilà, on est sans mots, quoi. On est sans voix. Et on est sans voix devant cette espèce de déséquilibre incroyable entre la figure du tyran et la foule des pauvres et misérables qu'il domine. Alors, c'est le scandale que désigne le premier des fragments que vous avez... on peut le lire très rapidement, le premier fragment, premier extrait, mais ô grand Dieu, qu'est-ce donc cela ? Qu'est-ce donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice horrible, de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare, contre lesquels chacun devrait défendre son sang et de sa vie, mais d'un seul. D'un seul. Voilà le scandale. Les séquences qui suivent dans le texte aggravent le problème et rendent la situation encore plus mystérieuse, encore plus incompréhensible, révoltante. Le paradoxe est en effet que non seulement le tyran terrorise les sujets qu'il domine, mais il leur extorque à eux tous les moyens qu'il utilise pour les dominer et les persécuter. Là, alors ça devient de plus en plus incompréhensible. Les corps, les forces, les esprits et les biens que le tyran utilise pour exercer son pouvoir sont ceux-là même qu'il a d'abord arrachés à ses sujets au point de les anéantir. Alors, c'est ce que dit de manière tout à fait magistrale le deuxième fragment, qu'on peut lire rapidement, « Pauvres gens, misérables, peuple insensé, nation opiniâtre, à votre mal et aveugle à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ses yeux qui vous épient, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même ? Vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats, dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qui les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride, plus courte. Le dernier paragraphe, on va voir, est très intéressant. Et tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer, et de tant d'indignité, pardon, que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Et d'ailleurs, l'actualité montre qu'il y a en effet des hommes très puissants qui tombent tels des colosses. Ce fragment est d'autant plus saisissant qu'il est écrit sur le mode d'une interpellation générale, adressée par l'auteur lui-même, non seulement à ses lecteurs, mais plus largement encore à ses contemporains, comme une proposition d'alternative possible à l'emprise du pouvoir qui vient de s'abattre si cruellement sur le duché de Guyenne, donc l'un des plus puissants, des plus importants duchés du royaume. Ce qui semble décidément scandaleux, c'est que tout se passe. Alors là, on touche le sommet du scandale, enfin, de l'incompréhensible. Tout se passe finalement comme si les pauvres gens et misérables, les peuples insensés et nations opiniâtres en leur mal, qui vivent sous le joug du tyran, étaient à ce point aveugles qu'ils en viendraient à se soumettre, voire consentir, et pire encore, contribuer à leur propre persécution et anéantissement. Et je vous disais, l'essentiel de ce fragment est sans doute dans son court paragraphe de conclusion. Il pose que le point où culmine, se concentre, mais déjà en partie se résout le scandale de la situation est dans le fait que la dépendance et la soumission ne sont en réalité pas là ou du côté ou dans le sens où on croit les voir. La vérité, la réalité est que c'est le tyran qui dépend essentiellement de la multitude de ceux qu'il prétend avoir asservis de façon irréversible. Et les choses commencent à se basculer. Comme le titre du discours qu'il faut attentivement lire dans ces deux énoncés, donc discours sur la servitude volontaire, virgule, le contre 1, ce court paragraphe avance en réalité deux propositions qui vont nous guider maintenant. Deux propositions. Premièrement, à la différence des bêtes, nous sommes libres. Voilà, c'est... là aussi le pose comme un postulat, on va voir tout à l'heure, c'est un fait même pour lui, un fait. Donc nous sommes libres, libres de vouloir, libres au point de vouloir le rester. C'est ça l'expérience, le fait, c'est que nous sommes libres au point de vouloir le rester. C'est peut-être en ce sens qu'il faut entendre l'adjectif volontaire du discours de la servitude volontaire. Il s'agit d'hommes volontaires, d'hommes libres au point de vouloir rester libres. C'est leur volonté, si vous voulez. Deuxième proposition, la première c'est donc la liberté. Deuxième proposition, toute la question devient alors celle de savoir ce que peut bien signifier rester libre ou volontaire en situation de servitude. En situation de servitude, autrement dit, que peut bien signifier le contre 1 ? De quoi s'agit-il ? Cela se joue dans la dernière phrase du paragraphe « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. » D'accord ? Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse, etc., tomber, se briser. Tout se joue dans cette dernière phrase, dans la dernière phrase de ce court paragraphe, sans doute la phrase la plus impressionnante de tout le fragment. Le ton de l'adresse, d'ailleurs, témoigne d'une plus grande attention, d'une forme de proximité encore plus importante. Je ne vous demande pas, voilà, là vraiment... On est entre nous, si vous voulez. Je ne vous demande pas. Il ne s'agit donc bien dans cette adresse qu'on a lue tout à l'heure, ni de menace. La Boétie ne fait pas la leçon à ses contemporains, ni à ses lecteurs, ni à ses contemporains, ni de menace, ni d'ironie, ni même d'exhortation. Le propos de cette dernière phrase, je ne vous demande pas, oui, le propos de cette dernière phrase est réellement surprenant et réellement peut-être l'un des plus audacieux du discours, mais à condition de faire à notre jeune auteur suffisamment confiance pour n'y chercher aucune rhétorique. Donc il sait ce qu'il dit, il ne s'agit pas d'emphase, vous voyez. Il y a là une vraie proposition, et c'est ça qu'il faut lui accorder, comme toujours d'ailleurs, quand on lit les auteurs. Donc, il faut y chercher aucune rhétorique. Que dit-il ? Il ne s'agit pas de pousser ni d'ébranler le tyran. Je ne vous demande pas ça. Il a dit à un autre moment, les hommes ne sont pas assez forts pour ça, militairement, militairement. Donc, il ne s'agit pas de pousser, d'ébranler le tyran. Il ne s'agit pas, comme il le dit ailleurs aussi, c'est extrêmement important, c'est une grande sagesse, il ne s'agit pas non plus de chasser le tyran et retenir la tyrannie. Donc, il ne s'agit pas d'une révolution de palais. On est d'accord. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de cesser de le servir, de cesser de le soutenir. Autrement dit, d'abord peut-être de rompre tout lien avec lui. La Boétie insiste sur ce point, et je le cite à nouveau, « Il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. » C'est ailleurs dans le texte. « Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. » Rien. Rien, c'est-à-dire ni complicité, ni attachement, ni connivence, ni intelligence, ni bien, bien sûr, dans la mesure où on ne nous les a pas extorqués, mais donner, rien donner, ni les biens, ni complicité, ni attachement, ni connivence, ni intelligence. Et la suite du discours va non seulement suivre ces deux fils, hein, les deux propositions, liberté et puis rupture, ne rien donner, d'accord, ne rien partager finalement avec le tyran. La suite du discours va non seulement suivre, mais nouer, tresser les deux fils qui viennent d'être dégagés, liberté et rupture. Le vouloir et le contre-un, la liberté et la rupture. Et vous allez voir, la Boétie va les traiter l'un et l'autre et montrer comment ces deux fils sont indissociables, en fait, constituent la trame d'une histoire de la liberté, d'une possible histoire de la liberté, à condition qu'on tienne et le principe de la liberté et le principe ou la consigne ou le courage de la rupture. D'abord, pour ce qui concerne le vouloir et la liberté de vouloir, de ce côté-là, sur ce point-là. Le discours ne traite pas de la liberté comme ce qu'il appelle avec ironie ou avec l'insolence de son jeune âge une question débattue à fond dans les académies et longuement agitée dans les écoles de philosophes. Il ne s'agit pas de ça pour la Boétie quand il parle de liberté. Le lien qu'il établit entre liberté et volonté le conduit finalement à concevoir la liberté, à la penser comme une expérience. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un fait pour lui. Voilà, c'est un fait. C'est même pas discutable, sauf dans les écoles de philosophes. Quelques formules sur ce point. On est donc sur l'hypothèse là, de la liberté, le postulat de la liberté. Il dit ceci, que dire encore ? Que dire encore ? Et ça, c'est le style du discours. Hein. On est tout le temps dans l'interlocution avec lui. Que la liberté est naturelle et qu'à mon avis, non seulement nous naissons avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre. Ou encore, mais quoi ? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer, s'il suffit pour cela que du vouloir se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait. Voilà, l'expérience, le fait de la liberté. Les développements les plus significatifs sont sans doute ceux qui disposent les outils qui vont permettre, à propos de la liberté, de passer déjà de l'hypothèse de la liberté à la proposition de la rupture. Donc, les outils qui permettent d'articuler, de nouer la question de la liberté avec celle de la rupture avec la tyrannie. Et là, on arrive au troisième fragment. Le troisième fragment, alors, ça, c'est un texte aussi tout à fait prodigieux, tout à fait étonnant. Ce qu'il y a de clair et d'évident, que personne ne peut ignorer, c'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés, en quelque sorte, dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. Et si, dans le partage qu'elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, puisque les uns ont la puissance de porter secours, tandis que les autres ont besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur le même modèle, afin que chacun puisse se regarder et quasiment se connaître dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a fait à tous ce bon présent de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser, et pour produire par la communication et l'échange de nos pensées la communion de nos volontés, puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et resserrer le nœud de notre alliance, de notre société, puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul être, comment douter alors que nous soyons tous, et là le mot arrive, naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux. Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Des formules absolument splendides. Et puis on sent le lecteur des grands textes latins. Mais quelques mots sur ce fragment. Dans des termes manifestement enthousiastes, mais aussi assez stupéfiants du point de vue philosophique et politique, le texte, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est ça une opération, attention, on la trouve pas n'importe où. On la trouve même assez rarement, celle-là. C'est plutôt l'inverse qu'on a l'habitude de lire. Qu'est-ce qu'il fait, lui, la Boétie, comme opération? Le texte déduit presque formellement la liberté de l'égalité et de la fraternité. Très étonnant. D'habitude, on passe d'abord à la liberté et après, on est donc tous égaux. Là, c'est le contraire. C'est l'égalité qui entraîne quasi logiquement la liberté. Ce sont des propositions qui ne peuvent nous laisser, nous, indifférents. Alors c'est là que la chronologie est stupéfiante. Les propositions qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, compte tenu de la radicalité avec laquelle la Boétie décline et articule les termes qui seront distingués, dégagés par Robespierre pour les inscrire sur la maison de la Commune de Paris le 21 juin 1793, et qui deviendront, comme vous le savez, après la Révolution de 1848, la devise officielle de la République. C'est quand même incroyable. La construction du texte est exemplaire et elle peut nous guider pour passer donc de la liberté à la rupture. Articuler la liberté à la rupture. La poésie, pose d'abord l'évidence du tous créés d'eux-mêmes et coulés en quelque sorte au même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux ou plutôt tous frères. Premier point, tous les mêmes. Il commence comme ça. En un second temps, il prend appui sur cette première formule pour développer une sorte de théorie de la compagnie, du secours, de l'entraide. C'est-à-dire que s'il y a de la différence, en réalité, le tous égaux est tellement principiel, tous les mêmes est tellement principiel, qu'en réalité c'est une ruse de la raison, comme dirait quelqu'un qui viendra plus tard que la Boétie, une ruse de la raison, c'était pour faire que les uns puissent voler au secours des autres. Donc pas de problème avec les distinctions de capacité physique ou intellectuelle, etc. Donc le second temps, c'est à partir du « tous dans le même moule », on déduit qu'en réalité, notre destinée est la compagnie. Notre destinée est le secours et l'entraide. Et puis ensuite, en un troisième moment, après avoir introduit, alors ça c'est aussi tout à fait étonnant, bon, Aristote était déjà sur le coup, mais après avoir introduit les notions essentielles de la voix et de la parole, qui nous destinent à resserrer le nœud de notre alliance et les liens de notre société, la Boétie conclut par des formules majeures, tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux. C'est-à-dire que, après un dernier passage par le rôle de la voix et de la parole pour resserrer les échanges entre ces êtres égaux, eh bien, il conclut que cette égalité, jusqu'à la forme qu'elle prend grâce à nos échanges, grâce à l'interlocution, cette égalité va produire la liberté. Et là, il y a une opération qui est quand même très singulière, très puissante. Ce n'est pas du tout une opération spéculative. L'opération spéculative, elle consisterait plutôt à commencer par la liberté, vous voyez, etc. Mais là, il y a quelque chose dans le texte de la Boétie, je trouve, qui est assez unique et qu'il faut prendre comme tel, quoi. Alors, une fois qu'on a lu ça, on a presque envie de lire, on se demande pourquoi ce n'est pas écrit ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, il y a vraiment là une sorte d'enchaînement. Alors, il y a de la période latine, mais il y a aussi de l'enchaînement logique extrêmement puissant. Alors, j'ajoute, et c'est pour ça que j'avais proposé à Didier de vous l'ajouter, de l'indiquer, les premières lignes de ce fragment. Les premières lignes de ce fragment dans la version originale du texte, c'est-à-dire dans le français de 1548-49, ces premières lignes permettent d'en découvrir et d'en réfléchir un aspect tout à fait remarquable et qu'on n'a pas dans la version de Charles Teste. Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est cela que la nature, la ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme et comme il semble à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour compagnons ou plutôt pour frères. Et j'avoue que vraiment, heureusement qu'on a encore cette version, la copie de faite par Montaigne, parce que grâce à lui, on a sous les yeux ce verbe magnifique, le verbe « entreconnaître ». Alors, voilà, le traducteur n'a pas retenu ce terme, on ne va pas lui en vouloir du tout, bien sûr, mais on a le droit de nous en restaurer la puissance, en fait. Ce terme mérite d'être réfléchi, pour au moins deux raisons très fortes. D'une part, il introduit une notion philosophique essentielle et d'une grande modernité, et d'autre part, il délivre la clé, finalement, qui va permettre de nouer nos deux fils, d'articuler les deux propositions, celle de la liberté et celle de la rupture. C'est l'entreconnaître qui permet ça en réalité. L'entreconnaître tel qu'il est ici, exposé. Que dit ce verbe ? Il déduit en quelque sorte de notre égalité de forme, au sens aristotélicien du terme, hein, il déduit de notre égalité de forme ou de nature ce qu'il désigne comme une essentielle capacité, voire une destination, à nous entreconnaître, c'est-à-dire à nous découvrir comme compagnons ou plutôt frères. Voilà. Donc, l'égalité de forme nous permet de nous, non seulement nous découvrir, mais même nous concevoir comme relevant de l'être, de l'antre, pardon. Je m'explique. En d'autres termes, la Boétie anticipe ici ce que certains philosophes contemporains vont soutenir, à savoir que chacun ne peut se connaître exactement et réellement, en vérité et en réalité, que dans l'expérience d'une reconnaissance échangée avec l'autre. C'est cela que dit l'entreconnaître. Je ne peux me connaître qu'entre nous, que dans ma relation avec un tu, un toi, un autre, quoi, voilà. Et c'est cet entreconnaître qui me permet de mesurer la nature de qui est la mienne, enfin de prendre connaissance de ma propre nature. Et la Boétie ajoute, je ne peux me connaître que dans l'expérience d'une reconnaissance échangée avec l'autre. Et la Boétie ajoute aussitôt, très justement, que cette reconnaissance réciproque s'accomplit, et c'est là qu'il est, il est d'une finesse d'analyse tout à fait étonnante, cette reconnaissance réciproque va s'accomplir tout à fait et réellement dans l'échange de ce beau présent, de ce beau présent que sont la voix et la parole, qui sont, ça on le sait depuis Aristote, faits pour l'échange. On est d'accord. Et ça, la Boétie l'a étudié au Collège de Guyenne. Mais attention, il faut bien être attentif, à mon avis, au fait que le présent que la nature nous fait en bonne gouvernante, en bonne ministre de Dieu, le présent est tout autant et indissociable dans l'expérience constitutive de l'échange que dans les objets échangés, que sont la parole et la voix. C'est-à-dire le présent véritable, le plus, pour nous, le plus précieux, est effectivement celui de l'échange. C'est l'échange. En d'autres termes, chacun ne peut se connaître que dans l'expérience d'une reconnaissance ou d'une entre-connaissance échangée avec d'autres. La proposition de la Boétie serait que la liberté, on est toujours sur la liberté, mais comme vous avez vu déjà au moment où, à force de méditer la liberté, on va arriver à une possible rupture avec la tyrannie, à une possible libération d'une certaine manière. Et donc, ce que dit la proposition de la Boétie serait que la liberté s'éprouve et se pense exactement et indissociablement au pluriel. Au pluriel. C'est sans doute ce que Rousseau a retenu de la lecture de ce texte. La liberté est d'abord dans l'expérience d'une relation d'égalité et de réciprocité, ce qui lui fait dire, en particulier dans le contrat social, vous savez, qu'elle est politique avant d'être métaphysique. Rousseau dit ça comme ça. Maintenant qu'on a eu le postulat de la liberté, puis cette exposition de la liberté comme expérience, et une expérience qui fait déjà deviner notre égalité, l'égalité qui nous fait compagnons et frères, va nous peut-être nous donner les moyens de nous de rompre avec le tyran, c'est-à-dire de nous poser contre lui d'une certaine façon et de prendre nos distances avec lui. C'est sur ces énoncés que la Boétie va fonder les formulations relatives au second des deux fils, donc on avait liberté et rupture, selon les deux fils qu'on a distingués dans l'étoffe du discours. Le fil que j'ai proposé d'entendre comme une proposition de liberté et comme une proposition de rupture. L'hypothèse ultime de la Boétie serait que c'est finalement la liberté, c'est-à-dire l'expérience, c'est-à-dire réellement l'expérience plurielle de la liberté qui fonde la possibilité de cesser de servir et de cesser de soutenir la tyrannie. Les développements qui sont consacrés à cette deuxième proposition, la rupture, occupent une partie très importante du discours. Cette partie du texte, elle commence par préciser qu'il y a d'abord trois types de tyrannie. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il ne fait pas les choses à la légère, la Boétie, c'est-à-dire, ok, il va falloir cesser de lui obéir, etc. Mais on va tenir compte du fait que la tyrannie, c'est une configuration de pouvoir qui a des formes différentes. Mais ces trois formes de tyrannie, elles se distinguent par les différentes voies par lesquelles le tyran accède au pouvoir. Il y a la conquête, il y a la transmission dynastique et il y a l'élection. Et vous le devinez sans doute, mais ce qu'on a dit jusqu'à maintenant le laissait deviner, en réalité, quelle que soit la voie par laquelle le tyran va accéder au pouvoir, la voie de la conquête, de la transmission dynastique ou de l'élection, dans tous les cas, la tyrannie sera la tyrannie. Donc, elle est ce pouvoir exorbitant et absolument scandaleux dont on a parlé. À partir de là, revendiquant une méthode quasi médicale, le texte de la Boétie va procéder à la recherche minutieuse des causes de ce symptôme qu'est non pas l'obéissance des hommes, dont la Boétie dit qu'ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Donc le scandale, ce n'est pas l'obéissance des hommes, mais le si surprenant charme que tout tyran semble exercer sur ceux qui l'assujettit et qui lui permettent de dominer totalement, radicalement. Donc le problème n'est pas tellement l'obéissance, parce que là, ça relève de la contrainte, mais la servitude n'est pas réductible à la contrainte. Le problème est le charme que tout tyran semble exercer sur ceux qui l'assujettit. Et il faut, dit-il, élucider, analyser, interroger la nature des liens qui permettent au tyran d'exercer ce charme et de maintenir la multitude dans la servitude. J'avais relevé, oui, un mot que j'ai pas inclus dans, pour pas ajouter trop aux extrêmes, mais juste pour montrer la méthode qu'il suit sur ce qui concerne la question de la rupture avec le tyran, avec la tyrannie. Il dit ceci: les médecins disent qu'il est inutile de chercher à guérir les plaies incurables, et peut-être ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple. Et donc il ne se paye pas de mots, la Boétie. Il fait pas le mariole, le tyran. Et peut-être ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple qui depuis longtemps semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l'afflige, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons cependant, voilà, et c'est à ça que la dernière partie du texte va être consacrée, cherchons cependant à découvrir, s'il est possible, comment s'est enracinée si profondément cette opiniâtre volonté de servir, Le problème, c'est servir, oui. Cette opiniâtre volonté de servir qui ferait croire qu'en effet, qui ferait croire qu'en effet, l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Voilà, vous voyez, là on est au bord de pessimisme d'une certaine manière. On est au bord du pessimisme. Alors, c'est quoi ces liens que le tyran arrive à imposer à ses sujets? Le premier ressort de la servitude sont, alors là il les développe, c'est très beau, de beaucoup d'analyses, l'éducation et l'habitude, qui conduisent les sujets du tyran, à, comme dit la Boétie, à vivre comme ils sont nés, parce qu'ils sont nés le plus souvent enfants de serfs, enfants, ils sont nés dans la servitude. Et donc, qui conduisent ces gens qui vivent comme ils sont nés à perdre ce qu'il appelle le feu sacré de la liberté qu'ils n'ont pas pu ou pas su entretenir. Il dit donc, voilà, la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs et qu'ils ont été, et qu'ils sont, pardon, élevés dans la servitude. Après quoi, donc, éducation, habitude. Éducation, dans le siècle aussi, c'était tellement important. Puis vient la ruse. Alors là, c'est très... Là. Alors, tout ça est émaillé de références historiques, d'anecdotes, d'exemples, d'histoires. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît que Rousseau l'a lu. Il y a une fameuse histoire d'ambassade... Auprès de qui déjà, qui est en fait que Rousseau reprend, sans signaler, enfin, qu'elle est... Donc c'est des histoires qu'on trouve dans les chroniques latines ou grecques, donc tout ça est émaillé de plein d'exemples. Donc, éducation, habitude, puis vient la ruse. La Boétie fait référence au titre, alors là, je l'ai gardé parce que celui-là, il est quand même magnifique. Au titre qu'ils se distribuent, qu'ils s'accordent les uns aux autres, et au discours des tribuns romains, à propos desquels il ajoute malicieusement, voilà, on a affaire à un jeune homme, hein, mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui, qui, avant de commettre leurs crimes, même les plus révoltants, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien général, l'ordre public et le soulagement des malheureux. C'est la Boétie qui dit ça. Après quoi, donc éducation, et puis habitude, et puis la ruse, après quoi vient la corruption, ça occupe une place évidemment majeure, à laquelle le discours consacre des développements importants, et la corruption, donc évidemment la répartition des biens, des... à laquelle le discours consacre des développements importants et à propos de laquelle il convoque alors des personnages évidemment exemplaires, Néron bien sûr et Crésus. Alors Crésus c'est 6e siècle, alors c'est avant Jésus-Christ, Néron c'est juste après, mais Crésus c'est Asie mineure, hein, donc on est sur l'autre rive de la mer Égée. Et donc, il décrit les largesses dont ces tyrans faisaient bénéficier les sujets qu'ils s'apprêtaient à persécuter aussitôt. Et voilà, je vous disais, ces analyses sont illustrées de multiples références historiques, et elles se concluent sur l'exposé que... Alors, là, attention, j'ajoute d'ailleurs que la Boétie ne fait pas d'illusion sur les largesses des tyrans... Il ne se prive pas de montrer, histoire à l'appui, que celui à qui il a donné tant va être étranglé peu après, à l'occasion d'une révolution de palais. Bon. Et la Boétie, une fois que ceci est fait, la Boétie conclut son propos sur l'exposé. Et là, on en vient au dernier moment, mais qui est le plus intéressant, bien sûr, sur l'exposé de ce qu'il désigne lui-même comme le secret et le ressort de la domination. Le secret et le ressort de la domination. C'est la proposition à laquelle est consacré le dernier des fragments qui sont ici sélectionnés. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est quand même très étonnant aussi, très important. Le plus puissant support du tyran est, selon la Boétie, dans le ralliement de quelques individus qui vont relayer son pouvoir dans la société. Il précise, ce ne sont pas des bandes de gens à cheval, ce ne sont pas les compagnies de gens à pied, en un mot, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours, on aura quelque peine à le croire d'abord, quoique ce soit exactement vrai, 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et assujettissent tout le pays. Devinant les doutes de ses lecteurs, la Boétie décrit très précisément, dans la fin du texte, ce qu'il désigne comme une filière ou une chaîne de petits tyrannos. Et les analyses de la Boétie permettent bien sûr, là aussi, aucune illusion sur le sort qui sera finalement réservé à ces tyrannos. Ce qui est très important, je crois, dans cette dernière partie du discours, du texte, c'est de ne pas réduire cette dernière proposition, donc les relais du tyran dans la société, de ne surtout pas la réduire à la description de ce qui deviendra dans les siècles qui suivront, on peut même prolonger, la cour et la courtisanerie. Il ne s'agit pas de ça, en fait, mais de quelque chose de plus grave que ça. Ce que la Boétie décrit ici est plutôt le développement, et alors là, c'est là que chacun va pouvoir jouer son jeu, sa carte, abattre sa carte. Il s'agit donc du développement d'une sorte de société de la tyrannie, qui n'est pas sans rapport avec ce que des philosophes contemporains, moi ça me stupéfait, entre 1548 et aujourd'hui, ce que les philosophes contemporains ont réfléchi comme une sorte de dissémination du pouvoir, où chacun s'en mêle, vous voyez, jusqu'à constituer ce qui est aujourd'hui appelé Deleuze dit ça, par exemple, mais Foucault l'a beaucoup décrit et s'est beaucoup battu avec cette affaire, des sociétés de contrôle. D'accord ? Ces analyses sur la construction de cette sorte de pyramide de la tyrannie permettent alors, ça y est, on tient l'affaire entre liberté et rupture. On le tient, parce qu'on est toujours libre d'aller jouer le tyranneau ou pas. C'est là que ça va se jouer, au bout du compte. C'est là que ça va jouer. Et ça, je suis libre. Je ne suis même pas forcément payé pour ça. On peut faire le tyranneau bénévole, vous voyez. C'est peut-être le pire, le tyranneau par vocation. Vous voyez. Donc, ces analyses sur la construction de cette sorte de pyramide de la tyrannie permettent alors de mesurer l'importance des propositions sur la liberté qui ont ouvert le discours. Mais l'importance aussi des propositions, y compris l'entreconnaître. Ce que refusent ceux qui deviennent les complices de cruauté du tyran, ce que la Boétie désigne comme des manches-peuples. Ce qu'ils refusent, c'est quoi ? C'est précisément la condition d'être au pluriel qu'on a vu dans l'affaire de l'égalité, la fraternité et donc la liberté. Ils refusent la condition d'être au pluriel des hommes qui s'entreconnaissent comme essentiellement libres. Ce que la Boétie appelle le charme du nom d'un, ce sont des mots, des discours qui comptent. Ce que la Boétie appelle le charme du nom d'un, et auquel Claude Lefort accorde une importance majeure, eh bien, c'est dans la voie que ce nom ouvre au refus de l'autre, Vous voyez, le charme du nom d'un, c'est la tentative ou la tentation de se suffire à soi-même, en réalité. Et à partir du moment où je décrète que je me suffis à moi-même, je peux éventuellement me prendre comme supérieur à d'autres et me considérer comme légitime dans la domination. À un moment d'ailleurs, la Boétie, quand il parle des possessions qui sont distribuées par le tyran à ses courtisans, il dit ils croient même se posséder eux-mêmes. Vous voyez, comme si on pouvait se posséder soi-même. Pour lui, c'est une blague, quoi. C'est une plaisanterie. Eh bien, le charme du nom d'un vient de cela, parce que le nom d'un, le nom un, il ouvre la voie au refus de l'autre. Il ouvre la voie au refus du compagnon, du frère, du pluriel. C'est ça le problème, au bout du compte. Le nom d'un, c'est le nom de l'exclusion. Et de nom de l'exclusion de l'autre, mais que cet un soit l'exclusion de la multiplicité, de la diversité, et que ce soit ce nom d'un de la part au nom d'un individu ou d'un collectif. Vous voyez, ça peut être aussi, un groupe social, une nation au sens nationaliste du terme, vous voyez. Donc, le nom d'un, il ouvre la voie, il désigne ce nom-là, l'un, il désigne l'exclusion. Il invite à l'exclusion de l'autre, de la multiplicité, de la diversité, que ce soit, encore une fois, de la part d'un individu ou un collectif. Et c'est ainsi que les sujets en viennent à renoncer au pluriel, lequel pluriel est l'élément de la liberté. À partir du moment où j'ai renoncé au pluriel et donc à l'élément de la liberté, je peux essayer de me projeter et de me refaire une santé, si vous voulez, du côté du tyran, du côté de la tyrannie. La proposition de la rupture consiste à renoncer à la chaîne de la servitude, en réalité. Et c'est la Boétie qui prononce le terme de chaîne. D'où le fragment 4, quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu'apitoyé de leur sottise. Car à vrai dire, s'approcher du tyran, c'est ça le point. C'est très joli quand même ça. La rupture, c'est ne pas s'approcher. C'est pas, on ne peut pas se battre, hein, mais s'approcher du tyran, c'est quand même un choix. S'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner de sa liberté ? C'est ce qu'on vient de dire, hein. S'éloigner de la liberté et pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude. Qu'ils mettent un moment à part leur ambition, qu'ils se dégagent un peu de leur avidité et puis qu'ils se regardent, qu'ils se considèrent eux-mêmes, ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu'ils foulent aux pieds et qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus heureux qu'eux, et en quelque sorte plus libres. Plus libres. Le laboureur et l'artisan, pour asservi qu'il soit en son quitte en obéissant, mais le tyran voit ce qui l'entoure, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi qu'il pense ce qu'il veut. Et souvent même, pour le satisfaire, qu'il prévienne ses propres désirs. Ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires. Et puisqu'il ne se plaise qu'à son plaisir, qu'il sacrifie leur goût au sien, qu'il force leur tempérament et dépouille leur naturel. Il aurait dû écrire des comédies, hein. Il faut qu'il soit attentif à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes, que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Est-ce là vivre heureux? Est-ce même vivre? Est-il rien au monde de plus insupportable que cet état? Je ne dis pas pour tout homme de cœur, mais encore pour celui qui n'a que le simple bon sens ou même figure d'homme. Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie? Et alors, ce qui est proprement remarquable, je termine là-dessus, j'ai peut-être été trop long, non? Ce qui est proprement remarquable, c'est la façon dont la Boétie va donner, parce que là on est dans l'écart, dans la distance, dans, on ne va pas aller s'approcher de lui, mais c'est que la Boétie va jusqu'à donner un sens positif à cette proposition de rupture et de distance, et de ne pas s'approcher. Il y a un choix possible alternatif à celui du tyran. Et alors là, c'est très beau, c'est très classique, mais ça commence avec Aristote une fois de plus, mais vous savez, c'est encore chez Hannah Arendt, aujourd'hui, et ça c'est assez bouleversant en un sens, le choix alternatif c'est celui de l'amitié. C'est ce que la Boétie développe dans un très beau paragraphe, voilà, que je propose de lire pour conclure, qui vient quelques pages avant la fin du texte. C'est celui-là. Certainement, le tyran n'aime jamais et jamais n'est aimé. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne peut exister qu'entre gens de bien. Elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient non tant par les bienfaits que par bonne vie et mœurs. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance de son intégrité. Il a pour garant son bon naturel, sa foi, sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié où se trouve la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'entretiennent pas, mais s'entrecraignent. Décidément, on a, vous voyez, mais s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. Voilà. Et l'alternative et l'amitié, moi, ça me frappe vraiment beaucoup, parce que vous savez, donc il y a l'éthique à Nicomaque, donc il y a l'amitié, enfin, donc les grands textes d'Aristote sur comment se conduire. Et donc là, Aristote donne une place extrêmement importante à ce qu'il appelle l'amitié, au sens où l'amitié ne peut exister qu'entre gens de vertu. Là, ici, la Boétie traduit Aristote pratiquement. Mais il y a Hannah Arendt, jusqu'à aujourd'hui, qui, elle aussi, accorde une place très importante à ce qu'elle appelle l'amitié politique. Voilà. Et ça, vous savez, mais les épicuriens, enfin, etc. Finalement, c'est un lien. C'est un lien social. Et c'est un lien social qui n'a pas besoin ni d'opprimer, ni de persécuter, ni d'enrichir, ni de... C'est juste le témoignage d'un possible lien, et l'amitié ne suppose pas qu'on soit issu de la même écurie, de la même école, du collège de Guyenne, ou je ne sais où, vous voyez, on les connaît aussi, les amitiés, elles sont de tout autre ressort, quoi. Voilà.
Merci. Merci beaucoup pour ce bel exposé. La parole est au peuple.
Ah, mais ça, je reconnais bien là les principes de Philopop. Je vais peut-être, est-ce que je peux prendre une minute, Chacharie?
Vas-y. Alors, préparez vos questions. Moi, je me ferai l'avocat du diable. Vous connaissiez le texte? Non. Ce n'est pas si connu que ça, il est souvent cité, mais... Alors, vous le trouvez très facilement dans des collections de poche. Alors, il y a celle, évidemment, que recommande Yann, qui est, je pense, la meilleure, mais il y en a d'autres. Voilà, c'est ça. Là, vous l'avez... je vous l'ai envoyé, d'ailleurs. Vous pouvez le tirer. Donc, ça, c'est la première chose. Concernant le rapport à Montaigne, oui, effectivement, Montaigne a été extraordinairement meurtri par la mort de son ami, la Boétie, hein, puisqu'il a organisé même les essais au départ, à partir en mettant au centre, effectivement, le fameux texte qui lui consacre. Ça l'a rendu dépressif, il le dit. Hein.
Excusez-moi.
Donc c'était quelqu'un de très brillant, là, ici, mais il n'a pas vécu longtemps. Hein. Voilà, Yann, tu vois, pendant ce temps-là, je meublais un peu.
Tu peux faire ça bien mieux, même, bien mieux que moi.
Vas-y, vas-y. Alors, des questions? Alors, je vais en poser une, et ce sera presque une objection.
À la Boétie.
À la Boétie, carrément. Carrément. Voilà, ce qui m'a frappé, mais tu me dis si je me trompe, c'est que, évidemment, pour la Boétie, la tyrannie, ça ne s'explique pas par le tyran.
Non.
Ça s'explique par ceux qui le subissent, enfin, qui s'asservissent.
C'est possible par eux, oui. Oui.
Surtout, oui. Surtout par eux. Surtout
oui, par la... La cascade des,
c'est ça.
Des relais. Quoi.
Des relais. Et ce qui m'a frappé dans le texte qu'il énonce, enfin, le texte qu'il produit, c'est qu'il n'y a pas le mot crainte. Je veux dire par là, je m'explique. C'est que la plupart des philosophes, à commencer par Machiavel, Spinoza, Montesquieu, il va parler du despotisme, du despote. Montesquieu va beaucoup développer cette question.
Oui.
Et puis, j'en oublie un encore, je ne sais plus lequel, enfin, j'avais cité un autre, bah, peu importe. Tous ces philosophes, Hobbes, évidemment, mais la crainte
bien
au
sûr,
centre,
bien sûr,
l'obéissance.
Bien sûr, la peur, ça commence
c'est
par
évident,
la peur
évident.
De la mort. Oui.
Et donc, au fond, tous ces philosophes expliquent plutôt la tyrannie par la crainte.
Oui.
Alors, ça ne les empêche pas, comme Spinoza, de montrer que la crainte engendre un processus de servitude volontaire, puisque ça amène les hommes à désirer combattre pour leur servitude comme s'il y allait de leur salut, hein, c'est vrai, mais il y a tout de même un moteur passionnel qui est subi. Et j'ajouterais, si je lis par exemple, et si je vais dans son sens, dans ce que dit alors, ce sens-là aussi, comment la Boétie, c'est que la crainte, comme va le montrer Montesquieu, par exemple, elle isole les hommes les uns des autres. Elle, justement,
oui.
Elle est une passion qui produit un isolement, une impuissance, qui fait qu'il n'y a plus de lien politique. Mmh. Et alors, à ce moment-là, justement, le problème, c'est qu'est-ce qui fait que des hommes qui sont isolés, qui sont emmurés dans un sentiment d'impuissance, vont pouvoir... entrer dans une relation qui leur permet justement d'être libres, vraiment. Puisque là, il n'y a de liberté que politique, que par le lien.
Oui, oui. Mais alors, c'est tout à fait... Mais alors, ça, si tu veux, il faudrait presque commencer par ça, parce que elle est par hypothèse, la crainte, d'une certaine manière. C'est la crainte qui fait le scandale, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est... Le charme, c'est pas seulement la séduction, mais c'est aussi la peur, enfin c'est la crainte, et elle est d'une certaine par hypothèse, c'est-à-dire que ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils craignent. D'abord, si tu veux, hypothèse numéro 1, ils craignent. Proposition numéro 2, mais pourquoi ? qu'est-ce qu'ils craignent ou... Alors, la Boétie ajoute, bien sûr, il y a la cruauté, etc. Mais ce n'est pas le ressort de l'asservissement, de la servitude. C'est-à-dire que ce que je crois, enfin, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que il montre qu'il y a une dimension, la disproportion, l'hétérogénéité qualitative entre le tyran et la multitude de ses sujets est telle qu'il a raison de dire il y a quand même là un vrai problème. Et sa thèse, c'est que il y a donc forcément soit l'épuisement ou la peur, mais la peur qui n'est même pas la crainte, qui est la peur parce qu'il dit ils sont pas assez forts, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas bouger un doigt, quoi. Enfin, toi, le petit doigt, ils ne sont pas assez forts. Et après, il y a, et il y a la crainte. Mais ce que je crois, c'est qu'il il pose que ça relève d'un principe nécessairement subjectif et pas objectif. Et si c'est subjectif, alors arrive le fait qu'ils ne sont pas d'abord craintifs, ils sont d'abord libres. Alors, qu'est-ce que le fait d'être libre leur donne, qu'est-ce que la capacité qu'est la liberté leur donne par rapport à leur crainte, enfin, par rapport à... Et là, la thèse de la Boétie, c'est il faut réfléchir, méditer la situation, comprendre qu'en fait, s'il y a... Parce que tout ça est un résultat. S'il y a la crainte et le tyran, la crainte, la peur, le tyran, c'est parce qu'il y a eu le choix de renoncer à mon être pluriel, tu vois. Et donc l'hypothèse, l'idée, c'est qu'il faut revenir à mon être pluriel, parce qu'alors là, par nécessité, il n'y aura plus les outils... de la tyrannie, la crainte, la peur, etc. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est que tout arrive à la subjectivité que je suis, il dit à un moment les pensées, nos pensées, etc., aux pensées qui sont les miennes. Si je fais l'hypothèse, parce qu'on peut aussi faire l'hypothèse qu'on n'est pas libre, mais si je fais l'hypothèse que je suis libre, les pensées qui sont les miennes, j'en suis l'auteur, et à ce moment-là, je peux renverser la situation. Y compris la situation de la crainte. Parce qu'après, si la crainte, si je renverse la situation, si je reprends la maîtrise des pensées qui sont les miennes, si je reprends la condition d'être au pluriel, d'entre-connaissance, etc., à ce moment-là, la question de la crainte devient une affaire de calcul. C'est-à-dire qu'il faut juste que... Le problème n'est plus que je suis soumis. Le problème est que je suis contraint, mais je peux toujours calculer la marge qui me reste, y compris dans la pire des contraintes. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais assez souvent dans le texte, la Boétie fait référence au courage des figures qui refusent, quoi, qui sont dans la résistance, quoi, qui sont dans le pas pour moi, pas pour pas quant à moi, en tout cas, ne comptez pas sur moi. Vous savez, I would prefer not to, quoi. C'est parce que la crainte, tu vois, elle n'est pas seulement cette crainte-là, elle n'est pas seulement chez le tyran d'une certaine manière. Elle est par rapport à tout pouvoir, que ce soit le pouvoir. Intellectuel, le pouvoir, je sais pas, économique, le pouvoir, tu vois, c'est-à-dire que la disproportion, elle est aussi importante entre la puissance du tyran et la crainte que je peux avoir à son égard qu'entre la fortune des bénéficiaires du CAC 40. Et celui qui reste au chômage, si tu veux. Et du coup, dans tous les cas, la question est pas seulement la situation objective, mais le rapport que j'ai à cette situation. Et la thèse de la Boétie, c'est sur la deuxième point, sur le rapport que j'ai à cette situation, là, c'est moi qui ai la main, quoi. Là, c'est moi. Alors, après, ça ne me donne pas ni du travail pour demain, ni le pouvoir sur un tyran. Mais en tout cas, ça ne fait pas de moi celui qui contribue à la tyrannie, quoi. Ça ne fait pas un tyranno. Je ne serai pas un tyranno. En gros, l'idée, c'est on n'est pas obligé d'être un tyranno. Enfin, oui.
Est-ce qu'on peut citer des personnages ?
Des personnages. À ceux qui sont dans la. Qui sont soustraits, oui, bien sûr. Oh bah oui, la dissidence, quoi, si vous voulez. Toute dissidence, quoi. À commencer par la Boétie lui-même, d'ailleurs, mais bon, la Boétie, malheureusement, il a été foudroyé par, visiblement, c'est un truc foudroyant, sa tuberculose, là, mais.
Frédéric Nietzsche, non ?
Oui, pourquoi pas.
Jeanne
oui,
d'Arc.
Oui. Pourquoi pas, pardon ?
Jeanne d'Arc.
Oui, absolument.
Oui.
On peut faire une galerie. Oui, absolument, non, ensemble. Oui, oui.
Je lis Patriote de Navalny.
Oui, 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 oui.
Il était libre. Mais
absolument.
Bon,
bah oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a la puissance. Ça, il le dit, on n'a pas sa force. Hein. Les gens armés, les gens à cheval, à pied, etc. Il y a la richesse et il y a donc tous les et puis il y a les tyrannos. Mais alors ça produit la peur peut-être, mais la crainte c'est autre chose. La crainte, je peux en disposer, mais je crois que alors ça sera intéressant d'ailleurs d'aller voir comment ça s'est passé pour les figures que vous avez évoquées. Les uns et les unes et les autres. Il est probable qu'ils sont, un moment ou l'autre, passés par un entre-connaître.
Ils ont tous été ostracisés.
Oui, mais ils ont dû aussi tous trouver leur force de dissidence, de résistance, dans un regard, une attention, un soutien. Un accueil, vous voyez, une hospitalité. Alors, je ne sais pas, pour Jeanne d'Arc, c'était peut-être des voix. Bon, mais après tout, ici aussi, les questions de voix. Elle a échangé ses voix avec un type qui était loin. Bon, mais... mais il y avait quelque chose... Non, et puis après, elle avait quand même levé une armée. Mais vous voyez, je pense qu'ils sont passés par un entre-connaître. Et ça, c'est, je crois que ce serait fidèle à la Boétie, ça, tu vois. Pardon.
Bon, alors moi, je ne sais pas si c'est très intelligent ce que je vais dire, mais
si.
Ça me fait beaucoup penser quand même à la relation d'un homme tyrannique et des femmes battues.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez vraiment parlé de la conquête, du charme, du moment où il n'y avait pas de crainte.
Tout à fait.
Et où progressivement, ça s'est installé.
Tout à fait.
Où elles ne peuvent plus repartir. Et il n'y a qu'une liberté personnelle qu'elles acquièrent de différentes façons qui peut faire qu'elles vont fuir.
Et un plusieurs. Et un plusieurs. Ah oui, tout à fait. Mais il me semblait que j'avais écrit quelque part l'emprise. Vous voyez, parce que le charme dont il... Alors, il parle du charme au sens... Au sens de la sorcellerie, quoi, vous voyez. Mais il me semble que j'avais écrit quelque part l'emprise. C'est de ça dont il s'agit. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a une disproportion physique. Il y a celui qui a l'argent et puis celle qui n'a pas l'argent. Il y a, je ne sais pas quoi, des faits d'éducation, des mécanismes psychologiques, tout ce qu'on veut. Mais je crois que le renversement, c'est quand quelque chose qui relève de l'entre-connaître va venir révéler une autre voie possible, un autre espace quoi, possible, une autre vie que celle qui n'en est pas une, quoi, quelque chose comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison.
Est-ce que la Boétie explique pourquoi les tyrans veulent se débarrasser des tyrannos?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est oui. Il y a ça chez Hobbes. D'ailleurs, à un moment, il dit le problème, c'est qu'il n'y a plus de place que pour un, en fait. Alors, c'est compliqué, vous voyez. Mais on retrouve le un, d'ailleurs. On retrouve le un, mais je ne sais pas si, précisément si je pourrais vous dire, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est au moment des, par exemple, de la corruption. Il dit très très explicitement, et même au moment aussi des tyrannos, qu'ils vont immédiatement le payer de leur vie. Enfin, c'est une sorte de c'est quasi suicidaire, quoi. Y compris ceux qui ont profité des. Mais on sait ça dans l'histoire. Enfin, l'histoire est pleine de ce type de tout d'un coup de relégation. Il en parle. Mais alors, il dit pas qu'est-ce que le tyran. Enfin, je me souviens pas avoir lu, ou alors j'oublie. Mais qu'est-ce que le tyran quels sont les mécanismes qui font que le tyran se méfie des tyrans? Mais il me semble que si, pourtant. Mais voilà, il faut que je recommence. Il faut que je le relise. Et il me semble que si. Il y a des moments, je crois, où il dit de toute façon. Il leur fait aucune confiance. Enfin, de toute façon, il dit il n'aime jamais et n'est jamais aimé. Hein. Ouais, il peut pas. Alors c'est ça, il dit ça d'ailleurs. Ils sont jamais tranquilles. Il le dit hein, ça. Alors parce que pour le tyran, il y a une espèce de fuite en avant.
Je crois qu'il voulait terminer. Je pense que le tyran est aussi contraint aussi dans une position aussi. Mauvaise que les tyrannos et que le peuple lui-même. Tout le monde, en fait, a raison de, disons, d'avoir une certaine crainte, puisque les tyrannos peuvent renverser le tyran. Voilà,
Sauf dans l'amitié.
Sauf là.
Sauf dans l'amitié.
Ah oui, sauf.
Il n'y a pas d'amitié possible.
Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une amitié sincère?
Ah non. Non, non. C'est incompatible. Il y a une incompatibilité, c'est l'eau et le feu. C'est-à-dire que la tyrannie, c'est exclusif. Quoi. La tyrannie exclut l'amitié réciproquement. Et réciproquement.
Il y a aussi autre chose que je voulais voir, c'est que, en fait, vous avez parlé de la liberté. En fait, je voulais le présenter un petit peu comme quelque chose un peu subjectif. Hein. D'ailleurs, la Boétie dit qu'on ne demande pas à ce que l'on renverse le tyran. Bon. Le problème se pose quand même que. Une véritable liberté, c'est aussi une libération, c'est-à-dire comment on va pouvoir se débarrasser des tyrans. Et c'est vrai que là, le principe du contrat, disons, de multitude face à une seule personne, ça ne marche pas automatiquement.
Non,
puisque, voilà.
C'est vrai.
Et ça, c'est,
vrai.
Le texte de Simone Veil,
oui, c'est vrai.
La politicienne,
oui, la philosophe,
qui,
oui.
Qui démontre bien, je ne sais plus le titre de ce
tout à fait.
Oui. Qui indique automatiquement que se pose le problème de la mise en commun des moyens pour la multitude
de
pouvoir renverser.
Et même, ça c'est tout à fait vrai, et ce n'est pas une seule question quantitative. Quoi.
Voilà. C'est effectivement qu'il y a une distinction entre la notion de force physique
exactement.
Et dans le domaine du social.
Tout à fait, oui. Oui.
Je me demandais si. Pour la Boétie, une société libre est possible. Parce que il est conscient, il nous dit très bien que la société est hétérogène. Il y a des grandes politiques,
oui,
des fausses,
oui,
des faibles,
oui,
etc.
Oui.
Et donc il y aura certainement toujours des tyrans. Donc est-ce que pour lui, c'est possible d'avoir une société libre?
J'avais pensé que c'est un peu une idée fixe, mais je pense que la seule société libre. Possible, c'est la société des amis. Je pense. Vous savez que c'est dans Les Misérables que. Comment il s'appelle le jeune amant de. Enfin, le jeune amoureux de.
Marius,
voilà. Il appartient à une société des amis de la liberté. Il y a quand même entre amitié et liberté quelque chose comme un nœud, vous voyez. Mais je pense que... Et alors, c'est juste parce que nous, on, peut-être qu'on ne le pense pas comme ou les Grecs ou les gens du 19e ou certains comme Hannah Arendt. Peut-être qu'on ne donne pas à l'amitié la puissance constituante qu'elle peut avoir pour ces auteurs-là. Or, je pense que ça mériterait d'être développé. Ça mériterait d'être cherché. Il faudrait trouver des auteurs. En fait, je pense qu'actuellement, c'est Arendt qui est la plus forte là-dessus, mais... parce que, en plus, la relation de. Enfin, ce que dit Montaigne de la Boétie est juste là-dessus, quoi. Enfin, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'était vraiment ça. Alors que y a la différence d'âge, de statut, etc. Mais moi, je pense que ça mérite d'être médité, la question. De l'amitié. Alors évidemment, pourquoi on n'y pense pas, en fait? Parce que elle exclut le pouvoir. Bon, c'est la raison pour laquelle elle est incompatible avec la tyrannie. Mais est-ce que tout lien, tout socius suppose le pouvoir? Je ne dis pas qu'il y aurait du sans-pouvoir. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le pouvoir, c'est une chose, le lien, c'est une autre, en réalité? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, mais après, il y a les liens. Et alors là, si vous voulez, ça sera entre nous. Le pouvoir, il se débrouille. Hein. Et puis on va lui dire, quand il en fait trop, quand il fait du zèle, on va lui signaler, quoi, gentiment. Quoi. Mais vous voyez? C'est-à-dire que... Est-ce que toute société doit être pensée du point de vue du pouvoir? La question de l'amitié consiste à penser un socius, un lien, qui ne soit pas du point de vue du pouvoir, mais du point de vue des sociétaires ou des associés, on va dire, du point de vue des associés. Du coup, est-ce que la question du pouvoir est absolument nécessaire à une conception du socius? Ça, c'est... En tout cas, les gens qui pensent la liberté, l'amitié, ce qu'ils appellent l'amitié politique, ils le pensent... c'est un peu l'exercice qu'ils cherchent à faire. C'est l'exercice d'un lien qui n'est pas forcément éphémère, qui n'est pas non plus forcément réductible à Montaigne et la Boétie, vous voyez, mais qui, en tout cas... n'inclut pas nécessairement des effets de pouvoir, ce qui ne veut pas dire que ça, c'est sans rapport avec du pouvoir par ailleurs, quoi. Non ?
Question.
Moi, je trouve qu'il y a des situations qu'on vit actuellement avec le dérèglement climatique de façon très très saisissante, qui sont très éclairantes. C'est ces situations où le pouvoir, parce qu'il est discrédité, parce qu'il n'a pas pris en charge la prévention des grandes catastrophes, tout d'un coup est éloigné, parce qu'il n'a plus de sens, il n'a plus de place, il est infréquentable. Je pense à comment les populations de Valence ont pris en charge leur malheur et leur solidarité. Mais alors, toutes les grandes catastrophes naturelles qui existent, c'est pas un moment durable, c'est un moment... très très connecté à la puissance du temps de la catastrophe, du dénuement.
C'est vrai.
Là, il y a quelque chose. Et alors, ça rejoint ce qu'il dit sur s'entreconnaître naturellement. C'est-à-dire, là, il n'y a plus le rapport au pouvoir. D'une certaine façon, on est des citoyens, mais on n'a plus de compte à vous rendre, parce que vous nous avez abandonnés, en fait. Et je pense... Et ce qui s'est passé dans certains quartiers populaires au moment du Covid, où on a vu des réseaux de solidarité spontanés se mettre en place pour aller nourrir des gens, etc. Parce que il y avait... Alors c'est intéressant parce que c'est des moments où le pouvoir s'efface, parce qu'il ne contrôle plus, il n'a plus d'efficacité, plus de légitimité.
moi, je, si, alors, je reviens à ma question tout à l'heure, de toute façon. J'y tiens. Effectivement, ce qui me dérange, enfin, ce qui me perturbe, en tout cas, peut-être que j'ai mal compris, c'est qu'il ne peut y avoir, semble-t-il, d'expérience de la liberté que dans la pluralité. Si j'ai bien compris. Que parce qu'il y a une expérience de la pluralité.
Oui.
Par conséquent, justement...
Mais, tu sais, oui, ça pourrait se dire de la conscience elle-même.
Oui, mais il se trouve tout de même que dans une situation maximale, une situation de crainte, comme celle que décrit Montesquieu du despotisme, par exemple, c'est une situation où, franchement, l'expérience de la pluralité s'effondre, comme d'ailleurs va le dire aussi Hannah Arendt quand elle va parler de la domination totalitaire. Il y a un effondrement de la pluralité, c'est-à-dire que les individus sont peut-être tous les uns avec les autres, à côté les uns des autres, mais ils ne sont pas... Ils n'ont pas vraiment d'expérience du lien. Et donc, ils se soumettent entièrement, effectivement, à une propagande totalitaire. Et ils fonctionnent de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, ils font masse, mais ils ne sont plus ensemble. Et ils ne sont plus citoyens. Donc, et, évidemment, si on prend l'œuvre d'Anna Arendt, elle décrit très, très bien ce phénomène d'effondrement, mais elle ne réfléchit pas tellement, au bout du compte, aux moyens... justement, de s'en sortir, de se libérer. Hein, c'est vrai qu'elle montre... Et cette libération, effectivement, elle s'effectue dans ces expériences collectives où les individus récupèrent leur puissance parce qu'ils font lien.
Arendt, il faut juste ajouter le groupe d'amis qui se sont, tant que possible, protégés. Il y a un livre qui vient de sortir, il s'appelle « Les parias ». Vous savez, où, en fait, c'est une sorte de récit de la vie d'Arendt et ses amis à Paris, où ils ont été fort maltraités, évidemment, et avant qu'ils partent sur le Portugal, puis, pour certains, puis les États-Unis, et pas tous, puisque certains d'entre eux n'ont pas pu quitter, d'où des situations de soit d'arrestation, mais de suicide aussi. Et bon, là, alors j'ai pas eu le temps de lire encore ce texte que j'ai très envie de lire. Il y a des là, par exemple, la crainte est totale, mais c'est entre eux qui discutent de tout, quoi, tu vois, de tout, hein, vraiment. Y compris des formes de suicide possibles, hein, y paraît-il, dans le livre. Donc, Arendt a vécu ça, quand même, et elle écrit là-dessus aussi. Et arrivé aux États-Unis, d'ailleurs, ils se sont tous retrouvés.
Elle a tout de même une situation relativement privilégiée par rapport
à d'autres, bien sûr.
À ses propres congénères. Hein.
Oui, oui.
Elle a pu s'échapper, elle a pu s'enfuir.
Elle a pu quitter le... Oui, oui.
Et c'est vrai que quand elle était à Gurs, dans les camps, elle a incité ses camarades à s'en aller, à s'exiler.
Oui.
Beaucoup,
oui, oui.
Beaucoup, effectivement, étaient défaitistes, étaient prêtes à rester sur place.
On ne pourrait pas dire que la liberté, ça se mérite, mais que malheureusement, la liberté, c'est angoissant, l'égalité, c'est ennuyeux, et la fraternité, c'est fatigant.
Oui.
C'est un peu désespérant.
Oui, c'est ça, oui. Les familles nombreuses.
Il y a un effort à fournir, c'est important pour qu'elle...
Oui, mais tout à fait, enfin... Vous avez absolument raison, parce que dans cette histoire, il ne s'agit jamais de donner, mais de labeur, quoi, quelque chose comme ça. Le texte de la Boétie, moi, je le lis comme un... Je l'avais lu il y a très longtemps, je l'avais travaillé déjà, et puis je l'ai repris, parce que quand même, ça faisait un moment. Il faudrait le lire plus souvent. En fait, c'est un appel au travail. Enfin, il va falloir qu'on regarde ça de près, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans le style de... D'où l'adresse, par exemple. Moi, j'aime bien les effets stylistiques qui ne sont pas du tout calculés, mais où il y a un moment où sont, c'est pas du tout pour les se fâcher avec eux, etc., mais où il a, c'est un appel au travail. Enfin, c'est une, il va falloir qu'on s'occupe de ça, qu'on travaille à ça. Et ça, je trouve ça assez joli, parce que effectivement, comme vous le dites très bien, ça n'a rien de béat, de donné, de paradisiaque. C'est pas du tout... on n'est pas effectivement dans cette configuration-là, quoi.
Il faut se mettre au travail, donc.
Voilà, c'est... voilà. Le texte, je le lis comme ça, je l'entends comme ça. Parfois, vous savez, il faut les entendre quasi musicalement. Et alors lui, il se fâche tout le temps. Il dit, mais quoi? Mais enfin, mais voyons, mais je pense que son... Sa disposition, c'est allons, mettons-nous au travail, quoi. Et d'ailleurs, finalement, écrire, c'est un premier entre, c'est un premier plusieurs, quoi. Alors les autres, les lecteurs sont pas là, mais ça crée du plusieurs, l'écriture. Ça, c'est intéressant aussi. Et je sais pas si Montaigne était dans cette disposition-là, exactement.
Oui, oui, enfin, on a pas que... mal de textes que Montaigne.
Parce qu'il y avait un petit côté, je vais écrire pour moi, etc. Mais bon, c'est peut-être un peu surjoué, ça, par Montaigne lui-même. Mais en tout cas, la Boétie, manifestement, c'est à la cantonade, quoi. C'est, et, ça aussi, c'est un entre-connaître, quoi.
C'est, en ce qui concerne la perception...
C'est peut-être ça, la liberté, c'est écrire, enfin, tu vois, s'adresser.
En ce qui concerne la perception d'une société, en fait, rares sont ceux qui peuvent la percevoir dans son ensemble. On n'a pas vraiment affaire au tyran, on a affaire à un tyranno, ou même
c'est vrai.
Un pichef, ou même à son mari. Donc voilà, on en vient à penser que c'est quasiment naturel.
C'est sans doute la puissance. Ouais. C'est la puissance des tyrannos, c'est que, enfin, c'est qu'ils ont, ça veut dire que la tyrannie guette tout un chacun, si vous voulez, d'une certaine façon.
Bah oui.
Donc il faut commencer par se libérer de soi-même, enfin, ou de ses tendances tyranniques ou quelque chose comme ça.
Dans ce qu'il a de jupitérien ou de dynique, pas forcément le dictateur.
Oui, oui, tout à fait. Ça. Ah oui, oui.
En fait, c'est parce que par rapport au tyranno, le relais du pouvoir, moi je pense à tout ce qui, toutes les formes actuelles politiques, nationales, internationales, et les relais de soft power.
Tout à fait.
Alors, puissant, et là, ouais. Je suis un petit peu pessimiste quant à la puissance de l'amitié face à des interconnexions aussi puissantes.
Ça serait intéressant, de, à partir de ce que vous dites, effectivement, de réfléchir les techniques.
Des relations amicales, dans un sens très large, amis, avoir des amis sur les réseaux, etc.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important parce que même l'amitié peut être en effet elle-même dévoyée, enfin, d'une certaine façon. Même l'amitié, c'est vrai que les amis des réseaux, je ne sais pas trop bien.
Le fatigue démocratique, les gens disent on ne peut rien faire contre tout ça. Mais je dis au moins, déjà, peut-être que là dans le sens de la OSI, c'est on n'est pas d'accord, on a des rechanges.
Mais parce que dans l'amitié, le petit texte là, c'est qu'attention, c'est le partage d'une exigence aussi. C'est pas une mondanité, ni technique, ni commerciale, ni politique, etc. C'est pas une mondanité. C'est le partage d'une même exigence. L'amitié permet le partage, mais le partage permet ou alimente ou nourrit l'amitié. C'est comme ça, je crois, dès l'Antiquité.
Oui, mais c'est une conception assez aristocratique tout de même de l'amitié.
Non, d'une exigence.
Oui.
Bon. Une exigence, il dit l'honnêteté ou le.
Oui, enfin, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs types de,
oui.
d'amitié.
Oui, oui, c'est vrai.
Le tyran peut avoir des amis à condition qu'ils ne soient pas, fassent pas partie de sa société.
Ça, je ne sais pas.
Bah, si, je l'ai vu.
Bah, ah oui.
Je l'ai vécu.
Parce que là, il dit, le tyran n'est, il n'aime pas, il n'est pas aimé.
Il y a quelquefois des très grands chefs qui sont des tyrans, soyons clairs. Eh bien, si vous les rencontrez, vous n'appartenez pas à cette société, vous pourrez découvrir quelqu'un qui n'est pas du tout, qui est complètement différent. Et je pense qu'on peut voir mieux ce qui se passe dans une tyrannie si on est extérieur à la tyrannie.
Sauf que dans le domaine politique, la tyrannie, on ne peut pas y être extérieur.
C'est le carreau, c'est pas la même chose.
Oui. C'est vrai, oui. Là, on ne peut pas être extérieur, il n'y a pas d'extériorité.
Ah ben si, dans notre pays.
Et encore,
on juge la Russie de la France, hein, soyons clairs. On juge Poutine comme un tyran parce qu'on est en France. En Russie, je ne sais pas comment ça se passe.
En matière de tyrannie.
On va avoir trop de peinture à gauche.
Mais le tyran. Alors, la schizophrénie du tyran, quoi, en gros, je crains pour son équilibre. Je sais pas, non, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est, enfin, je sais pas si c'est tellement, si ça peut être vraiment durable. Enfin, vous voyez, c'est la schizophrénie du tyran.
Les descriptions littéraires qui en sont faites montre un personnage complètement isolé qui vit dans la paranoïa.
C'est ça, oui.
Il a peur sans arrêt d'être empoisonné.
Oui.
Bah, Staline, il changeait sans arrêt de domicile.
Oui.
Il ne pouvait pas rester dans le même endroit.
Il faisait enlever les marchepieds de sa limousine pour qu'on ne puisse pas s'y accrocher pour le descendre.
Ah oui.
Oui. Et il est probable d'ailleurs qu'il ait été empoisonné par des médecins qui se sont sentis menacés et qui étaient amis les uns avec les autres.
Oui. Oui, donc il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas s'approcher, décidément.
C'est pour ça qu'on ironisait sur le cas de Poutine qui se mettait à je ne sais combien de kilomètres de ses serviteurs, de ses. Et assez impressionnant. Encore une question, peut-être, et puis on arrêtera là. Eh bien, il me reste à remercier Yann.
C'est moi qui vous remercie.
Et vous écouterez l'émission remarquable qui...